Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 4 mai, merci d'être avec nous. Je vous devine en ce moment même à côté de votre radio ou avec votre téléphone à la main, branché sur RFI, fidèle au rendez-vous en tout cas, et je vous en remercie. Nous allons revivre les temps forts de ces 7 derniers jours grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons pour l'Espagne, le Venezuela, le Japon, le Bénin par exemple. Et d'abord, rendons un hommage. Hommage à Arnaud Dubus, notre ancien correspondant en Thaïlande et plus largement en Asie. Il nous a quittés cette semaine. Il était une voix de la station depuis une trentaine d'années. Eh bien, écoutons sa voix une dernière fois.
Peu à peu, les militaires gagnent du terrain. Les manifestants battent en retraite. Ils ont dû incendier plusieurs de leurs barricades. Mais ce face-à-face pourrait encore durer toute la nuit. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Et puisque nous parlons de la disparition d'un confrère de la radio, j'ajoute qu'une place, Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Camille Lepage, du nom de nos deux amis de RFI tués au Mali, et de la photojournaliste française tuée, elle, en Centrafrique, a été inaugurée hier à l'occasion de la Journée mondiale pour la liberté de la presse. Cette place est située au cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement. Une semaine d'actualité, donc, nous allons aussi parler d'Albert Camus. Pas l'écrivain, mais le journaliste, avec notre invité, Maria Santos Sainz, qui lui consacre un essai. Et à la fin de l'émission, avec Déborah Gros, vous verrez qu'une semaine d'actualité peut aussi vous servir à apprendre ou à perfectionner votre français. Programme copieux donc pour ce nouveau numéro d'une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur votre moteur de recherche préféré sur l'application RFI Pure Radio.
Une semaine d'actualité.
Alors, avant de vous écouter, Maria Santos Sainz, partons pour le Japon. L'empereur Akihito a donc abdiqué après 30 ans de règne. Il a cédé le trône du chrysanthème à son fils aîné, Naruhito, lors d'une brève et sobre cérémonie. Ainsi a commencé une nouvelle ère baptisée Reiwa, Belle Harmonie. Tokyo Mardi, Frédéric Charles.
Le nouvel empereur Naruhito a accédé au trône du chrysanthème, l'emblème de la famille impériale, vêtu à l'occidentale d'un costume queue de pie et portant un grand collier et des décorations. Dans la salle de pain du palais impérial, Naruhito a reçu deux des trois trésors sacrés, transmis selon les mythes par la déesse du soleil à la lignée impériale, un sabre et un joyau. Le miroir n'a pas fait partie du rituel. Il ne sort jamais de Hisé, le sanctuaire le plus sacré du Shinto, la religion première des Japonais, qui considère l'empereur comme une divinité. Les femmes de la famille impériale ont été exclues de cette cérémonie. La seule invitée était l'unique femme ministre du gouvernement de Shinzo Abe. Le nouvel empereur a prononcé ensuite un discours. Il s'est engagé à respecter la constitution, à remplir son rôle de symbole de l'État et de l'unité du peuple, en ayant toujours le peuple à l'esprit et en se tenant toujours à son côté. Le nouvel empereur entend, comme son père, mettre la plus ancienne dynastie régnante en accord avec son temps. Il refuse que l'institution impériale soit un enjeu de pouvoir politique. Au moment où le premier ministre Shinzo Abe cherche à réviser la constitution pacifique et à recentrer la société japonaise comme avant guerre autour du Shinto et de l'empereur.
Une semaine d'actualité donc, merci encore de votre fidélité. Bonjour Maria Santos Sainz.
Et bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes docteur en sciences de l'information et maître de conférence à l'Institut du journalisme de Bordeaux-Aquitaine et de l'Université Bordeaux-Montaigne. On dit l'IJBA, hein, c'est ça?
Tout à fait, de l'Institut du journalisme Bordeaux-Aquitaine.
C'est l'abréviation bien connue dans le milieu des journalistes, l'IJBA, l'école de Bordeaux. Et vous êtes l'auteur donc d'Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris, avec une préface d'Edoui Plenel. C'est un livre que j'ai trouvé absolument complet, très agréable à lire, c'est un gros travail. Peut-on considérer Albert Camus comme un modèle?
Absolument.
Alors nous parlons du Camus journaliste. Hein.
Bien entendu. Et c'est un modèle vraiment pour la profession, surtout à l'heure d'une certaine méfiance actuelle envers les médias, un discrédit. Il y a une haine des journalistes. Et je crois que vraiment apprendre des Camus, du Camus journaliste, elle est tout à fait nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Pour reprendre courage et aussi pour retrouver la dignité perdue de cette métier qui est nécessaire, essentielle pour la démocratie.
Alors on s'aperçoit, ou on se remémore en lisant votre livre, Maria Santos Sainz, que le journalisme a beaucoup compté pour Albert Camus.
Absolument, il était journaliste, il était absolument passionné par ce métier. Il a pratiqué d'une manière très intense, brève. C'est vrai qu'il y a eu 5 moments dans sa vie. D'abord ses débuts en journalisme, dans un quotidien, Alger Républicain. Après, il est passé avec Les Soirs en Algérie, Les Soirs Républicains. Il y a 5 moments.
Une carrière qui a commencé en Algérie, son pays natal.
Absolument, ouais. Son pays natal, et qu'après il s'est développé en France, à Métropole, et à Paris. Il y a eu 5 moments de sa vie qui s'est vraiment consacré, qui était journaliste professionnel, vraiment, avec une carte de presse.
Alors vous avez cité les 2 premiers journaux, il faut citer les 3 autres. Donc
absolument.
Il y avait Paris Soir.
Absolument, Paris Soir, où il était secrétaire de rédaction, et aussi après Combat, les mythiques exemplaires journal d'indépendance, Combat, de 1944 à 1947, et ses adieux au journalisme, c'était avec l'Express, où il a été chroniqueur en 1955.
Avec une rubrique qui est restée célèbre dans l'histoire de la presse, c'est la rubrique Actuelle. Il avait une rubrique qui s'intitulait Actuelle.
Absolument, absolument. Il est revenu au journalisme, d'une part pour appuyer aussi la candidature de Mendès France, mais aussi pour parler de son obsession, bien sûr, et bien entendu, l'Algérie.
Oui. Alors, avec 2 phases dans cette carrière que vous venez de retracer, Maria, une phase de reporter d'abord, en Algérie.
Absolument, c'est ça l'aspect le plus inédit, et je vous cache pas que moi je suis entré à mieux connaître Albert Camus journaliste par le biais de son parcours comme éditorialiste.
C'est souvent le plus connu.
Et voilà, c'est le plus connu. Mais hélas, c'est là que j'ai découvert, et je voulais faire partager, et aussi cette journaliste vraiment du terrain, ces grands reporters et journalistes d'investigation, même si c'est une définition qu'à l'époque il n'était pas du tout usuel. On peut dire qu'il a fait un journalisme d'investigation afin de dévoiler des réalités méconnues, des réalités dont d'autres médias ne parlent pas.
Alors on cite souvent, il faut la citer à nouveau, Maria Santos Sainz, cette phrase célèbre d'Albert Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Ça devrait être écrit sur tous les murs de toutes les rédactions.
Absolument, et aussi également dans toutes les écoles de journalisme, afin de former des grands journalistes pour demain. On a besoin de beaucoup de Camus journalistes aujourd'hui, je crois, en France, mais aussi partout dans le monde entier. Et je crois qu'il y a une responsabilité sociale des journalistes, et c'est vrai que dans les articles et les réflexions qu'il a fait, parce qu'il y a beaucoup de réflexions autour du journalisme, il a construit aussi également une théorie critique du journalisme avec une dimension déontologique qui est très importante. Et la responsabilité sociale, il parle, c'est vrai qu'on doit toujours aller chercher cette vérité et essayer d'être toujours plutôt des côtés des victimes et des plus démunis. Et
c'est ce que l'on appelle, Maria, le journalisme engagé.
Absolument, mais un journalisme engagé aussi face à la réalité. Il faut un journalisme aussi qu'il puisse vraiment raconter des réalités qui sont complètement invisibles, donner la voix aux gens qui n'ont pas la voix. Et ça, c'était un peu la manière, la tâche principale de ces Camus journalistes reporters, notamment dans ces premières années où il y a quand même un modèle exemplaire à suivre aujourd'hui encore.
Est-ce qu'il constitue un modèle pour vos étudiants de Bordeaux, les étudiants journalistes de Bordeaux?
Absolument. Je peux vous dire, il y a quelques années, on avait fait un groupe de chercheurs, une enquête auprès de l'idéal de journalistes, les modèles, les types de journalistes idéals. Et c'est vrai que, bon, il y avait Albert Londres, bien entendu, mais Albert Camus, il était parmi les 3 journalistes les plus cités. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'imaginaire également de la profession.
Maria Santos Sainz, nous allons continuer notre voyage dans l'actualité de la semaine, parce que nous sommes là pour ça et nous le faisons avec plaisir. Pour la première fois en 5 ans, le groupe djihadiste État islamique a donc diffusé une vidéo présumée de son chef Abu Bakr al-Baghdadi, un peu plus d'un mois après la chute de son califat autoproclamé, Nicolas Falaise.
La barbe est devenue grise, mais pour les spécialistes interrogés, c'est bien l'Irakien Aboubakr al-Baghdadi qui apparaît sur cette vidéo, assis dans une pièce entourée d'autres individus, au visage masqué ou flouté. Un fusil automatique est bien visible à portée de main du chef djihadiste. Dans ce message, al-Baghdadi évoque la bataille de Barouz en Syrie. Il rend hommage à plusieurs de ses hommes et cite notamment les djihadistes français Fabien et Jean-Michel Klein. Le chef du groupe État islamique promet la poursuite du combat et dans un enregistrement audio qui accompagne la vidéo, il qualifie de vengeance les attentats meurtriers de la semaine dernière au Sri Lanka qui ont été revendiqués par son organisation. Sur les images, le calife autoproclamé consulte des dossiers qui semblent correspondre à différentes branches régionales du groupe État islamique, de la Turquie à l'Afrique. Il mentionne ainsi Adnan Abou Walid al-Sarraoui, l'une des principales figures djihadistes du Sahel, émir du groupe État islamique dans le Grand Sahara.
Partons maintenant pour l'Espagne, Maria Santos-Sainz, un pays qui ne vous est pas tout à fait étranger.
Non plus, mais c'est vrai que pour Albert Camus non plus, il a toujours dit que l'Espagne était sa seconde patrie.
Et ça, c'est un aspect du livre que j'ai trouvé fort intéressant, parce qu'en général, on oublie un peu son intérêt pour l'Espagne.
Absolument, j'ai tenu énormément à parler un peu plus de cette dimension, de cette Espagne qui lui tenait à cœur, une Espagne auquel il est resté toujours fidèle, et notamment pour la cause républicaine jusqu'à la fin de sa vie, vraiment une fidélité absolue.
Alors, partons pour l'Espagne de 2019. Après la victoire dimanche des socialistes aux élections législatives, victoire mais pas de majorité absolue pour ces lédits socialistes, Madrid, François Musso.
Tout le monde avait dit que la participation serait l'élément clé, et ce le fut. Alors que l'abstention n'a été que de 24%, la gauche a été le principal bénéficiaire de cette mobilisation, et en particulier le candidat socialiste Pedro Sanchez, qui a emporté haut la main ce scrutin. En face, la droite, fragmentée en trois mouvements, a payé le prix de ses divisions. Le Parti populaire, qui a gouverné le pays en alternance avec les socialistes depuis la fin du franquisme, subit une saignée de suffrages sans précédent. Pendant ce temps, les centristes libéraux de Ciudadanos obtiennent un bon résultat, tout comme l'extrême droite de Vox. De l'avis général, c'est surtout la peur de Vox qui a provoqué la mobilisation massive des votants de gauche et facilité la victoire de Pedro Sanchez. Un Pedro Sanchez qui va désormais devoir former un gouvernement, ce qui ne sera pas si facile. Certes, il peut compter sur le parti Podemos et sur les nationalistes basques, mais il lui faudra probablement négocier avec les séparatistes catalans, une tâche qui sera certainement délicate.
Le Venezuela, maintenant, des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre mardi dans les rues de Caracas, la capitale, en soutien à un groupe de militaires qui s'était rallié à l'opposant Juan Guaido. À Caracas, donc, ce jour-là, Benjamin Delisle.
Sur l'autoroute qui sépare le quartier d'Altamira de la Carlota, on distingue quelques manifestants qui lancent des pierres au travers d'un nuage de gaz lacrymogène. Des tirs retentissent. Mais ça n'empêche pas la foule de grossir. Araya, la vingtaine, porte un produit blanc sur le visage pour se protéger des gaz. Elle ne pouvait pas rater ça.
Parce qu'apparemment, un groupe de militaires nous a rejoints, nous l'opposition, et nous sommes ici pour que cesse enfin l'usurpation.
Une clameur monte, quelques militaires se frayent un chemin vers l'autoroute, armes à la main, portées par la foule. Ils portent un brassard bleu. José, un foulard sur le visage, hurle de joie.
C'est le signe distinctif qu'ils ont utilisé pour dire qu'ils sont pour le Venezuela. Pour le peuple vénézuélien, ils sont bienvenus parce qu'on les aime et qu'on a besoin d'eux.
Un peu plus haut, sur la place Altamira, des manifestants arrivent de toutes parts. Judith veut se rapprocher de la Carlota, elle dit ne pas craindre la répression.
Cela fait 20 ans qu'on a peur. Moi, je vais avoir 70 ans et je suis ici avec mes enfants et mes petits-enfants. Il faut sortir pour soutenir ce mouvement.
Certains viennent de beaucoup plus loin, comme Maria José et sa famille. Ils ont quitté Puerto Cabello à 3 heures de route dès l'aube pour venir à Caracas.
On est là pour pouvoir raconter l'histoire à nos enfants, nos petits-enfants, dire « j'y étais ce jour-là, le 30 avril ».
Tous ici sont persuadés de vivre la chute du gouvernement de Nicolas Maduro, le point final de nombreux mois de lutte.
La situation à Caracas est à suivre dans nos journaux, comme d'ailleurs toute l'actualité internationale sur RFI. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Maria Santos-Sainz, qui vient d'écrire un livre que je vous recommande, notamment si vous destinez au journalisme ou si vous vous intéressez au journalisme et à l'histoire littéraire. Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris. Les élections législatives en Espagne vous inspirent un commentaire et cette victoire, somme toute, surprise des socialistes?
Eh ben, c'est une belle victoire aussi, en sachant qu'il y a eu une campagne électorale qui était quand même assez tendue, avec des propos, et en quelque part, ça permet à l'Espagne de s'installer dans une voie de progrès aussi, un peu proche au modèle du Portugal, en quelque part. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup des hypothèses d'alliances, hein, on l'a entendu avec la chronique de François Mousseau. Il y a cette possibilité de se rajouter, enfin, de se rapprocher aussi à Podemos. Il y a la possibilité aussi d'avoir les votes des nationalistes basques. En tout cas, bah, il va falloir ouvrir les dialogues qui est nécessaire, mais ça permettra aussi d'installer dans une certaine stabilité l'Espagne avec une voix et un pari de progrès.
Et il y a une nouveauté, dirais-je, que chacun a remarqué, c'est l'entrée de Vox, quand même, du gouvernement d'extrême droite.
Oui, absolument. Et inquiétant, parce que, bon, c'est vrai que pas autant comme les sondages avaient donné, mais quand même, il faut savoir que pendant les années de la transition espagnole, il n'y avait qu'un député de Blas Piñar, et à l'époque Fuerza Nueva, ça s'appelait comme ça, ses partis politiques, et maintenant, cette montée, c'est tout à fait inquiétant de voir qu'il y a quand même une Espagne un peu réactionnaire, et qui sont là, installés au cœur de la démocratie. Donc, il va falloir être vigilant, et je crois justement que le travail des journalistes espagnols, il va falloir, et j'y pense aussi à Albert Camus, évidemment, être là pour être des gardiens de la démocratie et essayer de rendre la vérité, éviter des fake news et surtout et rendre vraiment un éclairage aux citoyens afin de bien voter, parce qu'on a des prochains rendez-vous, les 26 mai, les autonomiques, il y a les plusieurs élections encore, les municipales également, les élections européennes. Il va falloir aussi mener un travail vraiment assez important pour que les gens ils puissent savoir quels enjeux on a face à nous. Donc le journalisme, évidemment, Albert Camus, c'est essentiel pour les enjeux de notre société, de la démocratie.
Le Venezuela et ce pays toujours divisé.
Ah, c'est compliqué, c'est vrai, c'est une situation très délicate. Moi, je crois à la paix, je crois aussi qu'il faut éviter toutes sortes d'ingérences, également notamment des États-Unis, évidemment. Ils ont un valeur ajoutée, ces pays, c'est les pétroles. Et bon, il y avait beaucoup d'enjeux, mais je pense qu'il va falloir, et notamment l'Union européenne, éteindre la main, peut-être, pour convoquer des élections générales qui vont permettre aussi d'éclairer un peu et de mettre une stabilité dans un pays qui a énormément besoin.
Et cette semaine a été marquée aussi par la menace américaine d'intervention au Venezuela.
Absolument, qui est toujours dangereuse et que ça nous fait y penser toujours à une espèce d'impérialisme américain qui a été toujours une tradition, hélas, en Amérique du Sud.
Maria Santos-Sainz, on va reparler de Camus. Il y a un chiffre dans l'actualité que je voudrais mettre en exergue et qui aurait fait d'évidence réagir Albert Camus, journaliste et même écrivain. Car selon un rapport d'un organisme qui s'appelle le CIPRI, qui est un organisme de recherche sur la paix suédois, selon ce CIPRI, les dépenses militaires mondiales n'ont jamais été aussi élevées. Plus de 1 822 milliards de dollars ont été déboursés en 2018. Par comparaison, en gros, le budget des Nations Unies, donc voué à la paix, c'est 2 milliards tous les deux ans, en fait. On voit l'écart. 1822 milliards
scandaleux.
De dollars.
Scandaleux, je trouve.
Je pense que Camus aurait été inspiré par ce chiffre.
Mais il faut savoir aussi que Camus, il avait été les pionniers à écrire un éditorial aussi au moment de la bombe d'Hiroshima. Et c'est vrai que c'était l'unique et le seul journaliste occidental qui a dénoncé aussi les désastres de cette arme fatale créée par, hélas, les êtres humains. Et c'était l'unique qui a été vraiment très critique, en sachant que la plupart des médias, ils ont plutôt était très favorable à cette prouesse technique.
Oui. Alors ce qui frappe quand on pense à Albert Camus et quand on lit votre livre, Albert Camus journaliste, c'est que l'intellectuel qu'il était et qu'il demeure a tout fait dans le journalisme. Il a fait du reportage et il a fait ce qu'on appelle aussi le secrétariat d'adaction, c'est-à-dire qu'il est allé se salir les mains au marbre, c'est-à-dire à l'imprimerie du journal, et il a été éditorialiste. C'est rare un tel parcours, ce niveau.
Absolument. Il a pratiqué tous les genres journalistiques, donc les reportages, ce journalisme d'investigation que j'appelais tout à l'heure. Il a fait la chronique judiciaire, aussi la chronique littéraire également, la chronique toute court, notamment à l'époque de l'Express, et il a été aussi, il a pratiqué c'est Magister qui est l'éditorial, donc Vigie et Morale aussi et de la profession. Donc c'est quand même assez rare, mais ça permet de voir à quel point il était impliqué, il aimait et vraiment il révérait cet métier. Il a toujours défendu et il y a eu également une réflexion très intéressante autour de la déontologie du journalisme avec une théorie critique, d'un journalisme critique qui prônait. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'aime bien rappeler les 5 commandements de Camus,
justement,
je crois qu'ils sont toujours d'une actualité absolue, qu'il faut vraiment marquer également, le marquer et dans toutes les rédactions. Voilà. Ouais. Donc d'abord, c'est la lucidité. Premier commandement, conseillé par Camus. Le 10e, c'est les refus. Le 3e, l'ironie. Et 4e et dernier, l'obstination. Ouais. Essentiel.
Alors, rappelez-les, Maria, parce qu'il faut les
lucidité,
apprendre par cœur.
Lucidité, refus, ironie, obstination.
Ouais. Est-ce que tout ça est dans les articles aujourd'hui? Ça, c'est
mais pas toujours, mais justement, aussi, justement, c'est pour ça que cet ouvrage, Albert Camus, journaliste, c'est vraiment un manuel des résistances pour les journalistes et pour les citoyens aussi, qui sont attachés vraiment à la défendre la démocratie et les valeurs démocratiques.
Ce qu'il faut rappeler aussi, Maria, c'est qu'il a mené cette carrière de journaliste multiforme, donc, tout en écrivant ses grands livres, ceux qui sont restés aujourd'hui, hein, par exemple, en 1939, Les Noces, en 1942 L'Étranger et le mythe de Sisyphe, 1947 La Peste, 1951 L'Homme révolté. Le journaliste était aussi écrivain au même moment.
Absolument. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il était modélé par la presse, mais il était aussi inspiré. Il y a des passages également, tout le monde qui a lu évidemment L'Étranger, il y a un passage aussi d'un chroniqueur, un journaliste qui est dans au procès, et même on lui pense à Albert Camus, il détaille à quel point, comment il était habillé. Il y a aussi des réflexions qu'on y trouve déjà auparavant, version papier, et que plus tard il va développer avec une manière plus approfondie dans ses livres. Donc c'est vrai que le journalisme, c'était la manière d'agir à l'actualité, et après ses ouvrages parfois c'était une manière également de développer des idées qui ont été déjà évoquées et publiées dans la presse.
Suite d'une semaine d'actualité avec un saut en France, maintenant Maria Santos-Sainz, et un retour sur les manifestations du 1er mai. Calme en province, violente à Paris. Reportage d'Abla Jounaïdi dans la capitale.
Avant même le début du défilé, les violences s'y sont immiscées. Police contre Black Bloc en plein cortège syndical. Kent, un manifestant, accompagne son ami venu se faire soigner auprès des street medics après des coups de matraque sur la tête.
C'est des bœufs, ils foncent dans le tas, ils réfléchissent même pas. C'est des enculés, j'étais au sol, ils m'ont relevé, pourquoi ils l'ont frappé?
Tirs de projectiles divers d'un côté, grenades assourdissantes et lacrymogènes de l'autre, tout le cortège y a droit, y compris Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui après s'être extirpé un moment a dénoncé les violences. Finalement, le défilé a pu s'élancer comme tous les 1er mai.
Tout le monde va pouvoir constater que, après les annonces de Monsieur Macron, il y a eu beaucoup de monde dans la rue pour lui dire « c'est pas ça qu'on attendait, donc revois ta copie ».
Plus en amont du cortège, les débordements ont ensuite redoublé entre les Black Blocs et la police dans le 13e arrondissement de la capitale.
Un 1er mai marqué aussi par une polémique au sujet d'une présumée intrusion de manifestants dans un hôpital, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en l'occurrence à Paris, donc Stéphane Genest.
Aux alentours de 16h ce mercredi, un groupe de manifestants pénètre dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. S'agit-il d'une attaque ou simplement d'un groupe de personnes qui cherchent à se réfugier? L'enquête en cours devra répondre à cette question. En attendant, plusieurs versions des faits sont avancées. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a évoqué mercredi, dans la soirée, que l'hôpital avait été attaqué par un groupe de Black Bloc. Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris, a annoncé déposer plainte. Il évoque la mise en danger de patients par une bande de manifestants casseurs. Néanmoins, d'après les différentes vidéos et témoignages sur les réseaux sociaux, on peut voir des manifestants, femmes et hommes, avec ou sans gilets jaunes, s'introduire dans l'hôpital pour se protéger des canons à eau et des gaz lacrymogènes lancés par les policiers aux abords de la Pitié-Salpêtrière. Des infirmiers avancent également cette thèse, précisant qu'il n'y a pas eu de violence ni de matériel dégradé ou volé. Au total, 30 personnes ont été interpellées. Les images des caméras de vidéosurveillance de l'hôpital ont été remises aux enquêteurs. Elles seules pourront déterminer les raisons précises de cette intrusion.
Suite d'une semaine d'actualité, alors Maria Santos-Saint, difficile de dire ce que écrirait Camus aujourd'hui. C'est même stupide de penser à ça, mais quand même. Revenons à ces fake news. La fake news ou les fake news venaient de l'intérieur, titré Libération hier à propos des déclarations du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il est revenu d'ailleurs ces dernières heures sur ces déclarations. Même l'État, en fait, peut propager de fausses nouvelles.
Absolument, c'est vrai que les fausses informations à l'époque de Camus, c'était pas les mots fake news hein, qui employait, mais c'est vrai que
c'est pas un très beau mot d'ailleurs.
Non, absolument, mais c'est vrai que lui déjà dans sa théorie critique, dans sa réflexivité journalistique, il avait déjà dénoncé parmi les risques, les dérives du journalisme et les fausses, la propagation des fausses nouvelles. Lui, il était aussi en quelque part victime aussi à cette époque-là, puisque c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale et on connaît aussi beaucoup notamment de Vichy et d'autres pays également, beaucoup de fausses informations. Donc et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, depuis la naissance de la démocratie, toujours il y a eu de la part du pouvoir et aussi essayer de raconter un autre récit, et c'est justement la nécessité, c'est pour ça l'urgence qu'on a besoin des journalistes vraiment capables de pouvoir chercher la vérité et pouvoir voilà éclairer vraiment les citoyens.
Mais l'époque de Camus n'était pas était l'époque de la presse écrite, le flamboyante, Maria, mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de la presse audiovisuelle, ces fausses nouvelles circulent plus vite, elles sont beaucoup plus difficiles à contrer.
Absolument, c'est vrai qu'il y a un nouvel espace médiatique qui est né, notamment Facebook, et il y a cette espèce des boules enfermées qui fait propager des fausses informations entre des groupes, et c'est très très dangereux. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un travail à mener de la part des journalistes. Il faut s'impliquer aussi à l'éducation aux médias. Moi, je crois énormément. Il faudra que ça soit même une matière obligatoire dans tous les collèges, vraiment, et apprendre à bien s'informer et pouvoir être capable de démasquer toutes ces fausses informations, parfois qui viennent de l'État, mais aussi d'autres groupes d'intérêt.
Alors, rappelons que qu'Albert Camus a été journaliste et à une époque où il a été aussi résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument.
Combat, d'ailleurs, le titre du journal était aussi le nom d'un mouvement de résistance.
Voilà, combat, absolument. Donc, c'est vrai, il y a une époque où, dans laquelle il a risqué de jouer sa vie. Il y a certains journalistes qui sont morts afin d'être bien informés. C'était un enjeu vraiment très important de pouvoir éclairer et rendre justement une vérité, une réalité, notamment par rapport à l'occupation nazie. C'était un moment très important où il s'est engagé tout de suite au sein de cette journal qui est devenu emblématique. C'était le journal vraiment par excellence indépendant, une référence aujourd'hui à suivre.
Et il faut rendre aussi hommage à un homme qui voulait absolument, qui a voulu tomber dans l'anonymat, c'était Pascal Pia.
Absolument, c'est un personnage fascinant, un homme très cultivé, rempli de talents, quelqu'un qui a revendiqué les droits au néant, et quelqu'un qui...
Il l'a revendiqué, c'est ce que rappelait d'ailleurs Roger Grenier, hein,
absolument,
l'écrivain disparu récemment.
Absolument, dans cet ouvrage formidable qui est Pascal Nia, les droits au néant. Et c'est vrai qu'en même temps, il a formé tout un binôme qui a réussi énormément en journalisme. Ils ont toujours à travailler ensemble depuis les départs. C'est Pascal Pia qui a écouté Albert Camus hein, quand il avait justement 25 ans, un âge qu'aujourd'hui la plupart des jeunes journalistes ils ont encore stagiaire, et c'est là que Albert Camus est devenu sur les terrains, sans passer par aucune école de journalisme, il est devenu donc journaliste. Après cette expérience journalistique, il a été poursuivi avec les Soirs républicains, mais ils se sont rencontrés aussi, c'est grâce à Pascal Pia qu'ils ont travaillé ensemble à Paris Soir à Paris comme secrétaire de rédaction et des
Paris Soir qui était le grand journal de l'époque, qui est devenu après France Soir immense journal populaire.
Absolument, mais aussi à une époque aussi un peu proche, oui. Voilà, un peu dévié de la ligne qu'il fallait. Et c'est vrai qu'après il a rejoint Combat au moment de la clandestinité, également de nouveau de la main de Pascal Pia.
Oui, oui. Alors, ce qu'il faut aussi noter, et vous le rappelez évidemment dans votre livre, Maria, c'est qu'il n'avait pas peur de la polémique. C'était un polémiste redoutable.
Absolument. C'est vrai qu'avec beaucoup de talents, il y a des polémiques très connues avec Dastier, avec Mauriac aussi, et notamment cette polémique qui est très célèbre, et avec Jean-Paul Sartre.
Oui, il faut rappeler de quoi il s'agissait.
Oui, ouais, c'était à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des combats idéologiques qui ont disparu, hein, les clivages idéologiques. Voilà, tout à fait. Donc à cette époque-là, les communismes. Donc c'est vrai que avec la publication donc des Camus, de l'homme révolté, c'est vrai que il y a eu une critique assez défavorable justement de la part d'un proche, Janson, des Sartre, dans lesquels il reprochait justement de dénoncer seulement et regarder seulement des côtés des goulags. Des pays communistes et pas parler d'autres atrocités. Donc ça, c'était un reproche qui, à l'époque, a été assez polémique. Mais surtout, les choses qui étaient, à mon avis, les plus tristes à l'époque, c'était un peu les mépris qu'il y a eu Camus, qu'il y a eu de la part des Sartre et un peu de ses proches, hein, pour l'effet de pas être agrégé, comme c'était Sartre. Et c'était plutôt quelqu'un de Camus, on peut dire aujourd'hui, un autodidacte. C'est quelqu'un qui a fait la faculté des lettres, mais il venait pas non plus de ses écoles d'excellence qui avait formé d'autres intellectuels.
Et c'est peut-être ce dont on a besoin, Maria Santos-Seitz, aujourd'hui dans le journalisme. Des gens qui ne sont pas forcément agrégés ou diplômés, mais qui connaissent, qui savent écrire et qui ont ce talent de journaliste.
C'est vrai que les choses qui est très intéressante d'Albert Camus, c'est que c'est un véritable exemple, excellent exemple de diversité sociale aussi. Je crois que dans ce métier journaliste, il faut une diversité d'origine sociale, géographique, des formations aussi également, qui permettront aussi de raconter, d'aller voir d'autres réalités et une autre ligne éditoriale différente. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que et c'est un bon exemple. Je crois que il y a beaucoup de gens avec beaucoup de talents qui sont pas issus toujours des établissements d'excellence, mais qu'il faut aussi donner la chance de pouvoir également intégrer un métier vraiment important comme c'est le métier des journalistes.
Alors à propos du reportage, Albert Camus disait ceci. Et là, je vous cite Maria, du reportage genre journalistique phare. Camus propose une excellente définition que l'on devrait inclure dans les manuels de journalisme. Encore une définition, un reportage des faits, de la couleur, des rapprochements.
Absolument. C'est vrai que son style percutant, concis, précis, journalistique a permis aussi, c'est un plaisir encore aujourd'hui, lire les reportages, notamment je conseille, et lire tous ces reportages qu'il a fait à l'époque d'Alger Républicain, cette enquête vraiment formidable, Mystère de la Kabylie, qui permet aussi de raconter des techniques journalistiques de terrain.
Des narrations.
Et des narrations, des récits qui sont vraiment voilà, très importantes.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez plus que jamais à nous écrire. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs en Afrique. Bonjour à Mamadou, un fidèle à Dakar. Bonjour à Poséidon Migon, à Bukavu en RDC, à Daouda, à Port-Gentil, à Issouf, à Ouagadougou. Bonjour également à Dominique, à Bamako, Elias, à Cotonou et Mahamat, à N'Djamena. Partons pour le Bénin maintenant, avant de reparler d'Albert Camus, Maria Santos-Seitz. Après des élections législatives dimanche marquées par une très forte abstention et des lendemains de scrutins pour le moins confus, le 1er mai notamment, dès mercredi après-midi, en effet, des centaines de manifestants se sont réunis autour du domicile de Boni Yayi dans le quartier de Kadjeoun, craignant que des policiers ne l'arrêtent. Et jeudi, la situation a franchement dégénéré. Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Lundi déjà, le ton est monté avec l'ultimatum des deux anciens chefs d'État qui demandaient au gouvernement de suspendre le processus électoral. Le Cantalon a répliqué d'abord par les trois anciens présidents de l'Assemblée nationale, puis par les ténors du Bloc républicain, un des partis de la mouvance ayant participé aux législatives. L'ultimatum a expiré mardi, la nuit même de la proclamation des résultats. Nicéphore Soglo a réuni toute l'opposition à son domicile ce 1er mai pour un nouveau mot d'ordre. Selon ses confidences, Boni Yayi n'a pas pu venir. Il a dépêché son garde du corps pour dire à ses camarades de lutte que sa maison était encerclée. Tous l'ont rejoint à son domicile, leurs militants aussi. La suite sera une série d'incidents graves et des bilans contradictoires. Le camp Yayi signale deux blessés par balle. Jamais la police n'a utilisé de balles réelles, rétorque le ministre de l'Intérieur qui parle d'un blessé à la main.
Partons pour le Soudan maintenant. L'Union africaine a donné 3 mois aux militaires pour transférer le pouvoir aux civils, alors que la révolution en marche est soutenue par la diaspora soudanaise du monde entier. Un reportage auprès d'un groupe de manifestants à Khartoum, la capitale, mercredi, Gaël Alex et Julien Boileau.
Au cœur du sit-in, une tente sur laquelle une banderole annonce « Les Soudanais d'Australie soutiennent la révolution ». Le frère d'Ahmed vit là-bas et finance le mouvement.
On a reçu de l'argent d'Australie envoyé par de nombreuses personnes. On est responsable de ces financements pour le bénéfice des manifestants. On achète notamment de la nourriture, de l'eau et des sodas. Pour le moment, on a reçu près de 8 000 $. C'est beaucoup.
Certains ont fait le choix de rentrer au pays pour participer à la révolution. Aman vient d'Arabie Saoudite. Il a déjà récolté près de 40 000 $ auprès des Soudanais du Golfe. Il utilise le système de l'Awala, un transfert d'argent de la main à la main.
L'argent ne passe pas par les banques, nous faisons ça sous la table. Pas de nom, juste des codes. Nous n'utilisons que du cash et un réseau de personnes de confiance. Nous n'acceptons jamais l'argent de quelqu'un que nous ne connaissons pas.
Pour Imam, dont le frère est à l'étranger, la révolution est une opportunité pour mettre un terme à l'émigration de la jeunesse soudanaise.
Moi, je ne veux pas partir. Au contraire, je voudrais convaincre ceux qui sont à l'étranger de revenir au Soudan pour développer notre pays. Ce qui se passe est une opportunité. On va pouvoir avoir des projets, nous n'aurons plus besoin de partir pour avoir un emploi ou de l'éducation.
Selon les Nations Unies, en 2017, les Soudanais de la diaspora ont envoyé près de 180 millions de dollars au pays.
Notre voyage africain nous conduit maintenant en République démocratique du Congo, où les redditions de miliciens et de membres de groupes armés se poursuivent. C'est plutôt une bonne nouvelle. On estime qu'environ 160 groupes armés, milices ou autres, sévissent dans ce pays, principalement dans les Kivus, ce qui représenterait environ 20 à 25 000 hommes. Reddition donc ces derniers jours dans le Massissi, précisément. Explication à Kinshasa de Florence Maurice.
Officiellement, une grande partie des combattants qui se sont rendus l'ont fait pour saluer l'alternance à la tête du pays et le départ de Joseph Kabila qu'il disait combattre. Mais dans les faits, la réalité est plus compliquée. Parmi eux, beaucoup n'ont pas de véritable agenda politique, souligne un bon connaisseur du dossier, mais plutôt des revendications sociales et espère que le nouveau président saura y répondre, en particulier dans le Kassai, d'où est originaire Félix Tshisekedi. Que se passera-t-il si leurs attentes sont déçues? La question inquiète les observateurs. Mais ce n'est pas tout. Parmi ceux qui se sont rendus, beaucoup nourrissent aussi l'espoir d'être systématiquement intégrés dans l'armée. De sources concordantes dans plusieurs provinces, la FRDC n'aurait d'ailleurs pas hésité à brandir cette promesse pour obtenir des redditions. Or, cette méthode a fait la preuve de son inefficacité dans le passé et Félix Tshisekedi a plutôt promis de travailler à la réintégration civile de ses combattants dans leur communauté. Quoi qu'il en soit, en l'absence de programme DDR opérationnel pour le moment, ces ex-combattants ne bénéficient pas de véritable prise en charge. Or, mettre sur pied une nouvelle stratégie DDR s'annonce un long chantier qui ne pourra pas débuter sans un nouveau gouvernement, toujours pas formé. Même si la nomination par le président Tshisekedi d'un point focal chargé de ces questions a été perçue, notamment par la MONUSCO, comme un signe de sa bonne volonté dans ce dossier.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Maria Santos Sainz pour notre plus grand plaisir. On aurait pu parler aussi de l'Algérie où les manifestations continuent. Il y a eu de nouvelles manifestations hier et de procédures judiciaires contre des proches du pouvoir qui continuent. L'Algérie qui d'évidence était importante, on l'a bien compris, pour Albert Camus.
Bien sûr, c'est un pays qui les tenait à cœur évidemment, qu'il a suivi l'actualité et voilà, c'était une de ses obsessions, bien sûr.
Edoui Plenel qui signe la préface de votre livre, Maria, il écrit ceci. Le journalisme, selon Camus, est à l'opposé du journalisme cynique et blasé, mercenaire ou aventurier, conformiste ou opportuniste.
Absolument, c'est une phrase assez importante, parce que bon, c'est vrai qu'il a exercé ses métiers, comme je disais, dans des périodes très très courtes, mais très intenses, très investies, et toujours avec un exemple d'intégrité et d'honnêteté. Honnêteté intellectuelle qui est essentielle pour cette métier de journaliste. Il a dit toujours qu'il faut jamais mépriser les lecteurs. Il tenait à cœur aussi les rapprochements du journaliste auprès des lecteurs. C'est vrai que parfois, ces dernières années, hélas, on a un peu oublié et méprisé parfois les lecteurs. Et lui, il était très engagé à cet rapprochement qui aujourd'hui, il me semble très nécessaire. C'est pour ça que dans cette préface, justement, tu citais, évoquais Philippe Lenel, une excellente préface que très honorée, évidemment. Et il dit que ce livre, c'est un cri d'alarme, et quelque part, c'est tout à fait vrai, car je pense qu'en lisant Albert Camus, ça nous permettra peut-être d'aider à relever vraiment les journalismes. Il faut que les journalismes se relèvent, que s'élèvent, et qu'on puisse aujourd'hui, voilà, exercer ces métiers avec moins de précarité. Il faudrait donner plus de moyens aussi, avoir plus de pluralité aussi des lignes éditoriales, et pouvoir et s'intéresser aussi à des réalités invisibles, à d'autres réalités, à comment il faisait Camus, quelque part aussi. Il faudra prêter plus d'attention aux démunis, aux invisibles, aux victimes de beaucoup de pays, mais aussi de notre pays, raconter des réalités qui parfois, hélas, ils sont désertés par les médias. Et je crois que ça, c'est notre travail de demain.
La lecture de Camus est obligatoire à l'école de journalisme de Bordeaux?
J'espère, enfin en tout cas, je voudrais bien que mes étudiants, j'en parle, et je fais référence, je pense que toutes sortes de futurs journalistes et journalistes aujourd'hui, mais tout citoyen aussi, je disais, qui s'intéressent au journalisme, mais aussi à la démocratie, et c'est un jeu majeur aujourd'hui, il faut absolument connaître et s'inspirer de cet Albert Camus journaliste.
Étudiant en journalisme qui vient de publier une revue, comme chaque année je crois, qui s'appelle Viso, et au retour d'un long voyage en Roumanie.
Absolument, chaque année, avec la spécialité presse écrite et web, donc je suis la responsable, on part avec quelques étudiants, la rédaction de Viso, pour décrypter aussi la réalité d'un pays. Cette année-là, nous sommes partis en Roumanie, à Bucarest, afin de connaître aussi la résistance citoyenne, comment les citoyens essayent de s'organiser et faire face aussi à des problématiques actuelles, comme la corruption aussi, et aussi également dans les pays de l'Est, hélas, comment l'état des droits, il est en train d'être démantelé, et une espèce de tendance vers l'illibéralisme, comme c'est le cas de l'Hongrie. Donc, je pense que c'est important aussi de donner la voix à tous ces mouvements citoyens, cette riposte citoyenne, des gens qui essaient de basculer et bousculer aussi la démocratie, afin de pouvoir avoir plus de transparence de la part du pouvoir.
Donc, cette revue est disponible à l'école de journalisme de Bordeaux, à la fameuse Ijba.
Absolument, et on peut l'acheter aussi partout dans le monde entier. Il faut juste aller chercher dans notre site Ijba, et bientôt on va pouvoir le vendre par correspondance. Vous pouvez l'acheter en ligne.
Merci Maria Santos. Ainsi, il faut lire votre essai qui s'intitule Albert Camus, journaliste, reporter à Alger, éditorialiste à Paris, avec donc une préface d'Edoui Plenel, livre qui est publié aux éditions Apogée. Merci.
Merci à vous.
Et concluons cette édition d'une semaine d'actualité avec vous, Déborah Gros. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Avec RFI Savoir, vous venez de publier « Travailler l'oral avec la radio ». C'est un autre livre que je conseille, qui est un livre très spécifique.
Très spécifique, puisque on s'appuie uniquement sur des extraits sonores radiophoniques pour apprendre le français avec la radio.
Dans le cadre du travail d'une entité de RFI qui s'appelle RFI Savoir. Que fait RFI Savoir ?
Voilà, alors en fait RFI Savoir, c'est un site internet, donc rattaché à RFI, qui propose gratuitement des ressources pédagogiques pour les personnes qui apprennent et les enseignants, enseignantes de français partout dans le monde. Donc ça peut être des exercices à faire en ligne, des personnes qui sur leur ordinateur ou même depuis leur téléphone veulent s'entraîner à écouter le français, à comprendre. Et puis aussi, il y a des fiches pédagogiques, donc des cours prêts à l'emploi pour des enseignants qui souhaitent utiliser la radio dans leurs cours.
Une formidable idée. Et donc ce livre que j'ai sous les yeux, publié avec les presses universitaires de Grenoble, s'intitule « Travailler l'oral avec la radio ». Donc quand on fait de la radio, on est susceptible d'être transformé en matière d'apprentissage du français.
Exactement, parce que en fait la radio c'est vraiment une mine d'or pour les personnes qui veulent apprendre avec l'actualité.
Oui, bien sûr.
Aussi. Et d'ailleurs j'en profite par rapport au thème de l'émission d'aujourd'hui, puisque c'est aussi une façon d'amener dans la classe de français l'éducation aux médias, apprendre à écouter la radio, décrypter qu'est-ce qu'on entend, comment, qui parle, tout ça. Donc c'est un peu faire rentrer dans les coulisses aussi des élèves qui sont peut-être pas familiers avec l'écoute de la radio, mais c'est aussi une façon d'amener la richesse du français dans le cours, parce que on a a souvent l'habitude d'utiliser des audios fabriqués, donc des acteurs, des actrices qui lisent des dialogues écrits à l'avance pour le cours. Alors qu'ici, on a des vraies personnes qui sont dans des vraies situations de communication et ça permet aux élèves de s'immerger vraiment dans la langue française, bah, telle qu'elle se parle, dans toute sa diversité aussi.
Alors dans ce livre, Déborah, vous proposez des extraits d'émissions de RFI dans toute sa richesse et vous avez repris un extrait d'une semaine d'actualité, hein, je vous en remercie. Une émission qui date du 30 juin 2018, c'était donc il y a près d'un an, avant la Coupe du Monde de football, et vous proposez dans ce livre un extrait des propos d'un philosophe qui s'appelle, qu'on aime beaucoup dans Idées, et aussi philosophe qui s'appelle Robert Redeker, et qui a tenu dans l'émission des propos sur ceux qui n'aiment pas le foot, et on va écouter l'extrait que vous publiez donc dans ce livre.
Alors, peut-on ne pas aimer le football? Beaucoup de gens n'aiment pas le football. D'abord, n'aiment pas le jeu, c'est pas mon cas. N'aiment pas, là je suis assez souvent d'accord, n'aiment pas l'environnement du football, c'est-à-dire le football devenu, nous en reparlerons sans doute, devenu une industrie et support pour la publicité, et même véhiculant une certaine idéologie politique, économique. Bon, là, je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer le football pour ça. Et puis, il y a le côté esthétique. On peut ne pas aimer voir des gens en short courir après un ballon. On peut trouver que c'est trop violent.
On peut trouver que c'est trop violent. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait, Déborah ?
Alors, cet extrait, il est très bien pour le public du cible du livre, qui sont des apprenants, des élèves de niveau intermédiaire. C'est-à-dire, ils ont déjà commencé à apprendre le français, mais ils ne maîtrisent pas encore la langue pour pouvoir s'exprimer très bien. Et donc, cet extrait, il est bien puisque Robert Redeker a un débit plutôt lent, il est posé, et il utilise un vocabulaire accessible. On peut facilement repérer des mots clés, des mots transparents, comme on dit, c'est-à-dire des mots que les élèves vont pouvoir repérer, quelle que soit leur langue, en tout cas, où ils vont pouvoir faire des connexions avec d'autres langues. Et donc, en général, donc, si on travaille à partir de cet extrait, on va d'abord, lors d'une première écoute, on va demander de repérer les informations principales, c'est-à-dire là, ici, les raisons d'être contre, enfin, en tout cas, de ne pas aimer le football. Et puis, on va réécouter l'extrait pour rentrer plus en détail dans la langue, et notamment un aspect voilà qui peut être intéressant dans cet extrait.
Parce que je dois préciser, je ne sais pas si je l'ai fait auparavant, mais que vous publiez non seulement ce livre, mais un CD qui porte les propos
exactement.
Que l'on vient d'entendre.
Voilà,
ce sont
exactement.
Des enregistrements. Donc on peut effectivement entendre les phrases que vous disséquez en quelque sorte dans le livre. Mais dites-moi, c'est une sacrée responsabilité que vous nous donnez, nous les journalistes de RFI, je parle aussi des invités, c'est de parler français, si possible.
Oui, mais en même temps, garder le naturel, garder la spontanéité, parce que c'est ça qui permet justement cette immersion aux élèves de français, langue étrangère, qui apprennent et qui se servent de la radio pour découvrir les accents et tant de façons de parler propres à tant de pays et tant de personnes.
Alors, il y a plein d'autres sujets dans ce livre. Il n'y a pas que le football.
Exactement, parce que justement, on a essayé aussi de faire une sélection d'extraits d'émissions de RFI par rapport aux thèmes qui sont habituellement abordés dans ce niveau-là, donc ce niveau intermédiaire de français langue étrangère. Et donc, on retrouve des thématiques comme l'art, la gastronomie, là, on a le sport, mais on a aussi l'amour, enfin, tout un tas de
vaste
thèmes.
Sujet. Voilà.
Et du coup, c'est aussi une découverte des émissions de RFI, parce que ça permet de découvrir des reportages, des chroniques. Donc, voilà, de montrer aussi la variété d'émissions qu'on peut avoir à la radio.
En tout cas, votre livre est un livre formidable. Travailler l'oral avec la radio, publié par RFI et les presses universitaires de Grenoble, et formidable aussi le travail de RFI Savoir.
Ben merci, on espère que c'est utile.
Merci Déborah Gros. Une semaine d'actualité s'achève. Cette édition a été réalisée par Pauline Leleduc. Et je vous retrouve demain pour le magazine Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Et nous parlerons cette fois du populisme avec notre invité, le politologue spécialiste de l'Italie, Marc Lazar, co-auteur d'un essai qui propose un nouveau concept afin de mieux comprendre ce populisme. Maria, vous semblez très intéressée, Maria ouais. Santos Sainz. Et ce nouveau concept s'appelle la peuplocratie. Il explique tout ça dans ce livre qu'il a coécrit. Et on en parle demain dimanche, donc, dans Idées à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.